Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux pour une nouvelle émission où je me propose de mener des lectures cursives de deux grands textes, l'Évangile de Jean et l'Évangile de Marc, avec José Willibald Michaud pour Saint-Jean et Dominique Collin pour Saint-Marc. Je voudrais que cette émission soit une chambre d'écho pour tous ceux qui nous écoutent, une chambre d'écho où vous pourrez trouver une correspondance entre ce que vous vivez et ce que vous lisez et entendez de la trace de cet homme, Jésus. Je crois que chaque lecteur, quand il lit un grand texte, peut être le propre lecteur de soi-même. Et cette lecture se fait au risque de la parole, justement. Pour vous accompagner, je vous propose une série d'émissions qui devraient être des lieux de rencontre et d'inspiration. Cette émission hebdomadaire traitera des deux évangiles en alternance. Vous retrouverez donc Saint Jean ou Saint Marc tous les 15 jours. Et pour cette émission, nous prendrons notre temps. Une petite suggestion, prenez donc à côté de vous le texte et pourquoi pas un bout de papier pour noter une expression à savourer, un texte à relire, un mot-clé. Laissez-vous surprendre, étonner, questionner par ces textes fondateurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par le Père José, José Willibald. Père José, bonjour.
Bonjour Pierre-Paul.
Merci de me recevoir chez vous à Maritsou. Vous avez une longue pratique de l'écriture. Vous êtes traducteur-poète à partir de l'hébreu. Mais Saint Jean, en grec cette fois, a nourri votre réflexion et votre prière pendant des années. C'est pour cela que je vous ai demandé de nous guider dans la lecture de ce grand texte. Merci d'avoir accepté. Pour nous aider dans cette lecture cursive, deux questions pour commencer. Qui est Jean, qui est donc l'auteur de cet évangile et quel est son projet ? D'une part, et puis d'autre part, comment allons-nous procéder pour cette lecture cursive? Et donc, qui est l'auteur de l'Évangile de Jean?
Bon, qui est l'auteur? Vous ne parlez que de l'Évangile. Je voudrais y associer deux autres œuvres qui lui sont attribuées. C'est l'Apocalypse en premier, le quatrième évangile en second, et puis des lettres, trois lettres assez émouvantes dont nous parlerons aussi. Alors, s'agit-il du même auteur? S'agit-il de l'apôtre Jean, le fils du tonnerre, comme Jésus semble l'appeler, parent du grand prêtre, comme il est désigné, disciple bien-aimé, qui aurait reposé sur le cœur de Jésus, et enfin, apôtre fidèle qui aurait accueilli ou recueilli chez lui à Éphèse Marie, reçue comme une mère. Bon, maintenant, s'agit-il du même personnage? Ce qui peut faire problème, c'est d'abord la différence de langue, de langage, entre ces divers écrits. Plusieurs hypothèses, dont l'une plausible, serait que l'apôtre Jean, exilé à Patmos, aurait écrit vers les années 95 en grec, mais dans une langue rude et peuplé d'hébraïsme, l'Apocalypse, donc vers l'année 95. Et puis, plus tard, mais avant l'encens, là nous avons quelques repères qui nous permettent de le dire, un de ses disciples, grec de naissance et de culture, aurait rassemblé la prédication de Jean sous la forme du quatrième évangile, écrit lui dans une langue correcte et même élégante, et qui témoigne d'une authentique maîtrise du grec. Il y a donc une différence sensible entre les deux langages. Mais cela doit-il nous troubler ou cela doit-il nous éloigner de l'écho de la langue primitive de Jésus ? Je ne crois pas, et je me référerai ici à deux citations des évangiles synoptiques, Matthieu et Luc, qui sont d'ailleurs qualifiés de logion johannique. Matthieu 11, 25 et Luc 10, 21, dans lequel Jésus, pris par une grande émotion, s'écrit « Je te bénis, Père, de ce que tu aies caché ces choses aux petits et
aux sages
et aux savants, et que tu les aies révélées aux petits. » Et puis dans le même texte, Jésus parle de sa relation avec son Père, dans un langage tout à fait johannique. Ce sont des échappées furtives, mais qui sont quand même significatives et qui nous laissent entendre que Jésus pouvait être entendu sans doute à deux niveaux. Un niveau courant, familier, concret, et un autre de type plus mystique, dont le quatrième évangile nous donne l'écho. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un problème en ce qui concerne la langue de Jésus. Mais quoi qu'il en soit, la rédaction du témoignage johannique daterait, elle, d'environ 60 ans après l'événement Christ, c'est-à-dire la Pâque ou la Pentecôte, et 60 ans d'expérience déjà chrétienne, communautaire, 60 ans durant lesquels la parole a germé, s'est épanouie dans l'esprit, 60 ans durant lesquels la jeune communauté a vécu, a risqué sa vie, c'est un mot que vous avez employé tout à l'heure, dans la foi en Christ ressuscité, dans l'expérience de sa présence en esprit et dans l'espérance de son retour en gloire. Voilà pour dire le ton, la sève du texte du quatrième évangile, car c'est cette parole du Christ-Esprit, je l'appelle ainsi, que nous allons essayer d'écouter aujourd'hui dans l'entendement de ce même esprit. L'auteur du quatrième évangile, donc nous savons peu de choses de lui, si ce n'est donc qu'il était un proche de Jésus, un proche et un favori, si je puis dire, et qu'il avait eu une longue vie de méditation de son propre souvenir. Il semble avoir condensé l'essentiel de son message, donc dans le quatrième évangile, mais dans le grand discours dit d'après la scène, c'est-à-dire les chapitres 13 à 17 de Saint Jean, et il présente ce discours comme la fin de ce que j'appellerais l'incarnation du Verbe dont il avait annoncé le parcours dans son prologue, et le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous. Et ces mots laissent entendre, résonnent, si je puis dire, dans une sorte de polysémie, multiplicité de traductions possibles, de polysémie culturelle dont nous devons tenir compte. Dans les mots, le Verbe s'est fait chair, nous pouvons entendre le logos de la tradition hellénistique, Le logos, c'est celui qui met de l'ordre, du sens, mais aussi l'écho de la sagesse hypostasiée, c'est-à-dire personnalisée, telle que la pressent la spiritualité juive de Proverbes chapitre 8. La sagesse personnifiée qui parle, et qui parle de son intimité avec Dieu. Et donc, il y a les deux résonances dans le texte de Jean. Et nous écouterons donc en priorité ce discours, Jean 13 à 17.
C'est effectivement pour vous l'essentiel de cette montée de Jésus exactement. Vers le Père. Et il y a toute une série de choses que vous nous avez dites ici, c'est l'incroyable nouvelle de l'incarnation, au fond c'est cela. Et deuxièmement, cette polysémie. Et j'invite les auditeurs à être très attentifs à ce genre de choses, car effectivement nous sommes un peu à la croisée du monde grec et du monde juif, évidemment. Voilà, c'est une première approche, nous y reviendrons certainement, d'accord. Père José. Vous avez l'habitude aussi de souligner la construction de cet évangile, construction septénaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mot qui est...
C'est ça. Mais je crois que dans la structure et psychologique et littéraire de Jean, le rythme septénaire, le rythme en sept mouvements est assez sensible. Et nous le retrouvons d'abord dans l'Apocalypse. Évidemment, l'Apocalypse est entièrement construite sur le chiffre 7, mais nous le retrouvons aussi dans la plupart des discours de Jésus, dont j'essaierai de donner le plan tout à l'heure. Les grands discours de Jésus, je dirais, pas avec Nicodème, dans la Samaritaine déjà, dans le dialogue avec la Samaritaine, vous avez un rythme septénaire. Dans le discours sur le pain de vie, bien sûr. La guérison de l'aveugle-né, c'est très sensible. La résurrection de Lazare, peut-être un peu moins. Et puis enfin, c'est ce grand discours des chapitres 13 à 17. Mais je vais en dire un peu plus sur le rythme de ce discours. Il me semble construit comme un immense concert spirituel, comme une symphonie. Et je crois qu'il faut nous faire l'oreille du cœur sensible à ce type de résonance, nous laisser prendre par le mouvement musical de ce discours, dont les harmoniques sont à saisir à tous les niveaux. Concert, mais bien sûr aussi dialogue. Et dans le dialogue, nous trouvons un Jésus présent, de façon nouvelle, presque insaisissable, une présence nouvelle qui se révèle peu à peu dans un long mouvement. Et avant de parler de cette étape, j'insisterai sur le fait que ce discours me semble construit en trois vagues qui fluent et refluent l'une sur l'autre, qui se recouvrent et qui s'articulent. Je donne les références. Le premier temps, ce sont les chapitres 13-14. Le second temps, les chapitres 15 et 16. Et enfin, le troisième temps, le chapitre 17. Ce sont trois vagues tout à fait distinctes et qui pourtant, il importe d'unifier. Il faut se laisser emporter par les trois vagues de ce flux.
Vous nous invitez, Père José, à avoir l'oreille du cœur, à être sensible à ce mouvement. Nous allons faire une pause musicale avec Jean-Sébastien Bach, un extrait de la partita numéro 4.
D'accord. Thank you.
Vous êtes sur RCF et nous poursuivons la lecture, l'introduction à la lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud. Il nous a dit comment était construit l'Évangile, il nous a dit qui était l'auteur de l'Évangile, il était en train de nous parler de la construction septenaire. Il est temps peut-être, avant de revenir à tout cela en détail, de dire comment nous allons procéder à cette grande lecture cursive. Nous allons laisser le prologue pour la fin. Ce prologue qui est très théologique et un peu solennel, Père José. Et puis nous allons vivre toute une série de rencontres, parmi lesquelles il y a évidemment Cana, Nicodème, la Samaritaine. Il y a aussi l'aveugle-né, il y a toute une série de grandes étapes qui nous préparent à cette deuxième partie, c'est la Passion avec ce fameux discours dont vous avez esquissé la construction. C'est donc une série de grandes rencontres et au fond, ne peut-on pas dire qu'une grande partie de l'Évangile, c'est la montée de Jésus vers le Père ?
J'aime beaucoup le mot. Pour moi, il est essentiel. Je crois même que ce discours peut être entendu, senti, vécu comme l'ascension de la parole de Jésus. C'est cette montée dans laquelle il doit d'abord s'arracher à une prise trop possessive de ses apôtres. Il doit s'arracher à l'affection de ses apôtres, c'est le premier temps, pour entrer dans l'évocation d'une relation nouvelle et de type mystique, une intériorité nouvelle qui va les révéler à eux-mêmes et à laquelle il va donner le nom d'esprit, la vie en esprit. Et enfin, dans un troisième temps, Jésus est comme au bout de son chemin d'ascension et se trouve seul. Apparemment, les apôtres sont encore présents, mais aveuglés et muets. Et Jésus semble seul dans le face-à-face avec le Père.
Il y a dans cet évangile une grande importance de l'intimité de Jésus avec son Père.
Sûrement. C'est la révélation de cette intimité à laquelle Jésus nous invite. C'est la fin de son discours. Et dans sa prière au Père, il dit « Je veux que là où je suis, eux aussi se trouvent dans la même unité que celle qu'il y a entre toi et moi, qu'il y ait une unité entre moi et eux et nous dans la grande communion ». Définitive.
Et donc chacun est invité avec son élan, avec son élan vital. On entend parfois dire que Jésus est le maître du désir. Oui. C'est comme cela qu'il aborde l'humain ?
Sûrement. Je crois que dans toutes les rencontres, vous en avez évoqué quelques-unes tout à l'heure, c'est le creusement et le cheminement du désir le plus radical, le plus primitif, le plus humain, qui est amené à s'ouvrir au désir infini du face-à-face avec Dieu. Sûrement. Jésus est le maître du désir. Probablement que l'épisode le plus significatif à ce propos, c'est la rencontre avec la Samaritaine.
Oui, nous pouvons nous réjouir d'ailleurs d'avoir votre commentaire approfondi là-dessus. Mais au fond, si Jésus est le maître du désir, le projet de l'évangéliste ici n'est-il pas de dire que l'amour est possible ?
C'est le dernier mot de ce discours et de tout cet évangile. Vous savez que dans le cours de ce discours dont nous parlons, le mot d'amour, amour ou aimer, est répété 32 fois. Donc c'est le thème musical le plus dominant, le plus insistant. Ainsi, pour Jésus, tout se résume dans cette révélation. Dieu est amour, il n'est qu'amour. Et nous sommes invités à lui ressembler, à devenir semblable à lui, à devenir des êtres d'amour.
Et alors, pour entrer dans l'Évangile, il y a ce premier témoignage de Jean-Baptiste. Nous allons le détailler dans la deuxième émission. Mais pour terminer cette émission, il y a tout de même cette question des envoyés des grands prêtres, qui es-tu ? Qui es-tu, Jean ? Et puis il répond, il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors là, c'est quelque chose d'important, il y a quelqu'un que nous ne connaissons pas. D'accord. C'est un Dieu que nous ne connaissons pas.
Sûrement. Et dans le dialogue, ce cheminement est sensible. Qui es-tu ? Où vas-tu ? Donc, les deux questions sont proches, d'ailleurs. Jésus leur annonce que les apôtres ne peuvent pas le saisir tel qu'il est tout de suite. Je m'en vais. Donc, il s'arrache à une première prise. Il s'arrache et ça crée un désarroi profond. Mais où vas-tu ? Pourquoi ne puis-je pas te suivre ? Demande Pierre. Et Jésus dit, là où je vais, vous ne pouvez pas venir maintenant, mais laissez-moi partir. Il vous est bon que je m'en aille, car alors je pourrai revenir à vous sous une forme nouvelle, la forme de l'esprit réconfort. La nouvelle présence de Jésus, c'est l'esprit. C'est lui-même, mais réalisé, définitivement abouti dans sa forme d'esprit. Et Jésus, alors, nous invite à entrer dans cette vie nouvelle et dans cette relation nouvelle et à devenir nous-mêmes des êtres d'amour achevés.
Devenir un être d'amour, c'est justement savoir que la personne est définitivement insaisissable, justement, oui, et que ça va à l'encontre de notre vieille tentation
de possession
et de maîtriser l'autre. Nous allons en rester là pour aujourd'hui, Père José, mais pour la deuxième émission, nous allons voir Jésus baptisé, et il y a une phrase très intéressante, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, et puis vous venez nous dire que Jésus va monter vers le Père. Je me plais, pour terminer cette première émission, de souligner ce mouvement vertical, ce mouvement vertical de descente et puis de montée, qui n'est pas sans rappeler, et nous en parlerons en temps voulu, le fameux songe de Jacob, où il voit au long d'une échelle, une échelle qui est posée sur terre et qui se perd dans le ciel, monter et descendre. D'accord. Des anges, je pense.
Tout à fait.
Songe prémonitoire. Merci Père José pour cette première émission. Nous allons de nouveau écouter du Jean-Sébastien Bach un extrait de la quatrième partita. Au revoir à tous et à bientôt. Thank you.
Thank you.